Léonid Andreïev, Le gouffre et autres récits. À Saboureau. Le village de Saboureau se trouve sur la rive escarpée de la Desna, dominant une étendue plate et sans fin de prairies, barrée au loin, sur l'horizon, par la ligne étroite d'une forêt bleue sombre. Il y avait 12 ans que le paysan Parmion Eremeïtch Kostiline était arrivé au village de Saboureau. Personne ne savait d'où il venait. D'ailleurs, nul ne s'en souciait. Parmion n'était pas de ces hommes avec lesquels on aime discuter à cœur ouvert du sens de la vie, assis à un comptoir de gargotes taché de tourboyous et de chures de mouches, ou bien vautri dans le foin. Cela tenait d'un côté à son physique repoussant, et de l'autre à son caractère renfermé et peu sociable. Parmion était un homme grand et robuste, et, quand on le voyait de dos, on se sentait bien disposé envers cette silhouette solidement bâtie, au mouvement un peu gauche et à la démarche mal assurée. Mais cela changeait du tout au tout quand on voyait son visage. Une terrible maladie, vulgairement appelée lupus, lui avait dévoré la figure comme une véritable bête féroce. Elle lui avait rongé le nez, laissant à la place un trou que Parmion dissimulait sous un chiffon blanc bien propre. Ses paupières rouges et bouffies étaient presque complètement dépourvues de cils et pendouillaient, toutes flasques, au-dessus de ses yeux gris, donnant à son visage un air bizarrement endormi. Ses joues et son menton étaient couturés de balafres et de cicatrices rouges et luisantes, comme si les plaies venaient à peine de cicatriser. Ni barbe ni moustache ne poussaient sur ce lamentable visage, hérissé çà et là de quelques poils fins et décolorés, comme ces arbres calcinés qui se dressent, solitaires, sur la terre bosselée, après un incendie qui a ravagé un bois de bouleaux et de jeunes trembles. Il y a sur terre bien des hommes sans nez, qui chantent, dansent et se font des amis. Ils se sont si bien accoutumés à cette absence de nez que les autres en viennent même à se dire que ce visage-là n'a pas vraiment besoin de nez. Tel n'était pas le cas de Parmion. Comme s'il se sentait coupable de sa laideur, ce colosse avait peur des gens et les évitait. Quand les circonstances l'obligeaient à participer à la conversation, il était taciturne et laconique. Bien qu'il n'eût pas fait de mal à une mouche de toute sa vie, sans le craindre à proprement parler, on l'estimait susceptible de certains actes devant lesquels d'autres reculeraient, sur la foi du dicton « Dieu marque les scélérats ». Parmion avait fait son apparition en qualité de manœuvre chez Fédo Gnédic, un paysan maladif et souffreteux. Il travaillait dur, sans ménager sa peine, mais toujours sans bruit, sans se faire remarquer. On aurait dit qu'il n'était pas là. Au bout de 3 ans, Fédo mourut. Pélagie, sa femme, pleura le défunt comme il se doit, puis chassa de son isba l'esprit du mort et continua à vivre comme auparavant, c'est-à-dire en se décarcassant pour ses 3 enfants. L'aînée, Grisha, n'avait que 11 ans, et Sanka, une fillette exigeante et extrêmement délurée, n'était pas encore sevrée. Après avoir attendu un peu, Parmion demanda à la veuve de le laisser partir. « Tu n'as pas de quoi me payer. Comment pourrais-je rester travailler chez toi ? » déclara-t-il brièvement et sèchement. Pélagie savait combien Parmion était habile de ses mains et, à ce moment-là, il lui parut presque beau. « Comment vais-je faire toute seule avec mes enfants ? » dit-elle en pleurant. « Ne m'abandonne pas avec mes petits orphelins, Eremeïtch. Prends la place de leur père. Et moi, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à la tombe. » parmi un resta. Si auparavant il abattait la besogne de deux hommes, désormais il travailla comme 10, toujours aussi discret et silencieux. Lui seul savait comment il trouvait le moyen de rendre invisible son énorme personne. Même avec Pélagie, auprès de laquelle il dormait à la place du défunt Fédo, il se montrait peu loquace. Seule la petite Sanka savait le faire parler, et même plaisanter. Cette jeune créature, qui venait tout juste d'acquérir les rudiments de la marche, et ne se déplaçait plus à 4 pattes que lorsqu'une extrême vélocité s'imposait, n'avait absolument aucun sens de la beauté. Non seulement l'absence de nez sur le visage du tonton Parmionne ne la choquait pas, comme les adultes, mais tombait dans l'excès inverse. Elle tenait les nez pour des attributs inutiles. Outre le fait que le sien était généralement la première victime de ses multiples chutes, Pélagie, sa mère, avait la fort mauvaise habitude de le pincer en l'entortillant dans l'ourlet de sa jupe et de tirer dessus sans pitié. Heureusement, c'était un nez tout petit, car, avec un grand nez, Sanka n'aurait jamais pu s'en sortir. Assise sur les genoux de Parmionne, elle caressait d'une main les bords luisants de sa blessure et, montrant de l'autre son petit museau barbouillé pour mieux se faire comprendre, se renseignait sur la taille approximative qu'avait eu le nez du tonton et sur ce qu'il était devenu. « C'est un chien qui l'a croqué, » disait Parmionne pour plaisanter. « Notre Médor ?» demandait Sanka, les yeux écarquillés. « Oui, c'est lui. » Retournant cette information en tous sens, la petite Sanka y décelait d'incontestables traces de calomnie. Médor n'était pas un chien à croquer les nez. Barbos, lui, en était capable. Mais Médor, jamais de la vie. Et Sanka considérait avec terreur le Barbos au long poil des voisins, imaginant le nez du tonton craquant sous ses dents. Et elle se précipitait vers sa mère en hurlant, quand Barbos, un chien en réalité courtois et affable, manifestait l'intention de lui lécher la figure. Peu à peu, Parmionne s'habitua à sa nouvelle condition, et son caractère se transforma considérablement. Il commença à rire. Un jour, en traversant la forêt, il fut pris d'une envie de chanter. Mais apparemment, sa gorge aussi était abîmée. Le bruit faisait davantage penser à un corbeau qui croassait qu'à un homme qui chantait. Il connaissait désormais le privilège des gens heureux. Celui de susciter la sympathie. On le fuyait moins, et si on continuait à l'appeler sans nez, ce n'était pas par moquerie ou par méchanceté, mais simplement pour constater un fait. Pélagie aurait été satisfaite, elle aussi, si son œil perçant n'avait depuis longtemps remarqué sur ce ciel pur un nuage qui menaçait de tourner à l'orage. Le problème tenait à Grisha. Ce joli bambin au teint mat de tzigane éprouvait envers Parmionne une insurmontable aversion. Très bavard avec tout le monde, il se montrait sauvage avec Parmionne et le suivait d'un regard pénétrant, plus mûr que son âge, quand il se couchait sur le poêle aux côtés de Pélagie. Il y avait dans ce regard de la jalousie et du mépris pour ce sans-nez qui avait pris la place de son père. Mais, plus encore que de sa mère, c'était de la maison, de la ferme, que Grisha était jaloux. Indigné qu'un étranger, un intrus, disposât comme du sien propre de tout ce bien hérité de son grand-père et même de son arrière-grand-père. En vérité, c'est Dieu qui nous a envoyés parmi On Eremeïtch, faisait parfois remarquer Pélagie en lançant à Grisha un coup d'œil en coin. Généralement, ce dernier s'en allait sans mot dire. Mais lorsque son frère Mitya et lui furent devenus assez grands pour se débrouiller tout seul avec la ferme, il commença à tenir tête à sa mère. « Si seulement on vivait tout seul, » grommelait-il. « Non mais regarde ce type, il se croit tout permis parce qu'il n'a pas de nez. Il fait comme chez lui. » « Tu es une vraie langue de vipère, Grisha, » disait Pélagie. Parmionne, dont la défiance passée s'était transformée en une confiance frisant l'insouciance, ne remarquait rien. Un jour, Grisha, qui était déjà un grand garçon de 17 ans, rentra à la maison d'humeur particulièrement hargneuse. « Si tu entendais ce que les gens racontent, » déclara-t-il à sa mère, « ce sang-né a pris la place de ton père, qu'ils disent. Les copains se moquent de moi, ils ne me lâchent pas. Il est suffisamment resté, il est grand temps qu'il débarrasse le plancher. » Il revenait sur le thème du plancher à débarrasser presque tous les jours. Pélagie protestait, mais chaque fois plus faiblement. Elle aussi, elle commençait à trouver bizarre que Parmionne s'occupe de tout. « Qu'est-ce qu'il fait là, au fond ?» se disait-elle en regardant le visage étrange et repoussant de Parmionne, qui, sans se douter de rien, tapait sur la clé avec sa hachette. « Il tape dessus comme s'il était vraiment le maître. » Mitya, un garçon maladif et indifférent à tout, faisait mine de ne pas remarquer la hargne de son frère. C'était un soir d'automne, un dimanche. Parmionne savourait béatement son thé dans l'isba. Par souci d'économie, quand il était à la maison, il enlevait le chiffon qu'il se mettait sur le nez, et son visage, couvert de cicatrices rouges, luisant de sueur, était encore plus affreux que d'habitude. Tout en buvant à même la soucoupe son thé qui fleurait bon le bouleau frais, il songeait à Sanka, qui se promenait quelque part avec ses amis, et s'émerveillait d'être Parmionne, ce type incroyable, en train de boire un thé aussi délicieux et de jouir d'un bonheur aussi immérité, tout en se demandant par quoi il allait commencer son travail le lendemain. Grisha entra, ivre et résolu. « Le gamin a fait la noce, » se dit Parmionne en souriant. « Grand bien lui fasse, c'est de son âge. » Grisha, sans ôter sa chapka, se planta devant Parmionne. Un sourire goguenard d'ivrogne errait sur ses lèvres. « On se la coule douce? Alors comme ça, on boit du thé? Parfait. Et au frais de qui ?» Parmionne, toujours souriant, voulut dire quelque chose, mais Grisha l'interrompit. « Bon, alors disons les choses autrement. Voilà la porte. J'ai bien l'honneur. » Une lueur de crainte brilla dans les yeux de Parmionne, mais ses lèvres souriaient toujours. Grisha s'approcha de lui en titubant, lui arracha la soucoupe des mains en renversant le thé. « Vous vous êtes assez goinfré. Ça suffit. Cette fois, je vais être clair. Il est grand temps de débarrasser le plancher. Les types s'en est, on n'en a pas besoin chez nous. Vous vous êtes assez prélassé ici. Alors, si vous le voulez bien... Hein ?» Il décrocha le manteau de Parmionne et le flanqua par terre. « Deux !» Après la chapka, ce fut le tour de la ceinture, puis des bottes, qu'il avait extrait à grand-peine de dessous le banc. « Trois ! Quatre !» Parmionne considérait le garçon bouche bée. Les doigts qui tenaient la soucoupe étaient restés en l'air, tout tremblant. Soudain, il perdit contenance. De blême devint écarlate et s'agita en tous sens en rassemblant ses affaires éparpillées. « Qu'est-ce que tu fais, espèce d'ivrogne ? » s'écria Pélagie qui commençait à avoir pitié de Parmionne. « Vous, mère, ne vous mêlez pas de ça. Vous n'êtes qu'une femme, et si vous le voulez bien, sept !» Grisha avait l'intention de jeter encore quelque chose par terre, mais il trébucha et s'affala sur le banc. Cela ne fait rien, bredouilla Parmione. Il a raison. J'ai un lupus. Je m'en vais. Ne fais pas attention à ce bon à rien, s'écria Pélagie. C'est un sale grincheux. Oh, quel malheur! Pauvre de moi!
Huit!
Comptait Grisha en dodelinant de la tête et en s'endormant.
Douze!
Parmione partit quelques jours plus tard. Entre-temps, Grisha avait évité de lui adresser la parole. Pélagie ne le retint pas, elle non plus, se contentant de répéter « Pauvre de moi !» Mitya faisait mine de ne rien remarquer. Seul Sanka poussa des hurlements en entendant que son tonton s'en allait. « Avec qui est-ce que j'irai au champ ?» glapissait-elle en s'accrochant énergiquement à la veste fourrée de Parmione. Cette nuit-là, la première qu'elle passait sans Parmione, elle renifla longtemps et songea à son triste destin. Elle finit par s'endormir après avoir reçu une fessée, mais elle criait souvent dans son sommeil et gémissait. Parmione réussit à trouver une place de garde forestier dans le bois de Chablikin, juste à la lisière du village. La nuit, pendant l'interminable hiver, il écoutait les longs hurlements des loups jusqu'à l'arrivée du printemps venu ressusciter la nature. Et Parmione, tout engourdi, sentit lui aussi la vie renaître en lui. Enfonçant jusqu'aux genoux dans une neige moelleuse, sous laquelle dormait une eau pure et transparente, il alla rendre visite à Pélagie, mais fut accueilli sans cordialité. Il s'en revint, bouleversé et perplexe. À partir de ce moment-là, il rôda souvent la nuit autour de la maison, plongé dans l'obscurité. La semaine sainte touchait à sa fin. Le dimanche soir, Parmione se rendit à l'église avec un gâteau de Pâques qu'une bonne femme du village lui avait préparé. Il y avait deux verstes de son poste de garde jusqu'à sa Bourrevaux. D'abord de la forêt, puis un grand champ couvert de ravines et de fondrières. Quand il sortit de chez lui, il faisait noir comme dans un four. On ne voyait pas une étoile, bien que le ciel fût sans nuages. L'air était tiède, un peu moite, à cause de la vapeur montant de la terre gelée, mais pas encore sèche. On entendait de tous côtés le bruissement doux et régulier de l'eau qui murmurait dans les sillons. À un certain moment, Parmione respira une bouffée de fraîcheur, de froid aigrelet. C'était un souffle venu d'un profond ravin encore à moitié rempli de neige. En bas, entre les parois à pic, on entendait le léger clapotement des eaux printanières. Au loin, du fond des ténèbres impénétrables, montait une vague rumeur, des craquements qui tantôt s'intensifiaient, tantôt s'apaisaient. C'étaient les blocs de glace qui s'entrechoquaient, se chevauchaient et se brisaient sur la Desna en crue. La rumeur devenait de plus en plus distincte et puissante au fur et à mesure que Parmione avançait sur la rive haute et escarpée, le long de laquelle passait la route. Son oreille commençait déjà à discerner des bruits différents. On entendait courir et tourbillonner des ruisseaux joyeux et impétueux. On entendait les blocs de glace à la dérive se fracasser sur la terre dans un craquement, soulevant des vagues d'eau. La rive faisait un coude. Et voilà qu'on découvrait l'église. Son faîte se perdait dans le ciel sombre, mais en bas, on voyait briller ces fenêtres illuminées, qui se reflétaient en taches frémissantes et fluctuantes sur la surface obscure et mouvante de la rivière en crue, qui avait recouvert les prairies sur plusieurs verstes. L'église était pleine. Les minces cierges de cire étiraient leurs flammes jaunes et menues dans l'air étouffant qui sentait le renfermé et la peau de mouton. À travers le bruissement indistinct de la foule, montait le murmure de l'oraison pascale. Parmillonne était debout dans l'entrée, où la voix traînante du prêtre parvenait à peine. L'hymne joyeux résonna. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. La foule, massée sous le porche, s'agita et se tassa encore davantage pour laisser passer le clergé. Un prêtre en chasuble claire s'avança. Derrière lui, se bousculaient et se pressaient en désordre les porteurs d'oriflammes et les fidèles. Une fois sortis de l'église, ils en firent trois fois le tour, à toute allure, presque au pas de course. Le chant, plein de joie, mais discordant, diminuait d'intensité quand ils passaient derrière l'église, puis fusait de nouveau librement. La cloche fêlée sonnait avec une allégresse désespérée, et ses sonorités cuivrées, vibrantes, s'envolaient en palpitant vers les lointains obscurs, au-dessus de la large rivière en crue. Soudain, le carillon se tut. La rumeur dense et frémissante mourut, et l'on entendit le bruit de la rivière. L'oreille assourdie captait des sons de cloche au loin. « C'est l'église d'Izmalkovo qui sonne, » dit l'un des paysans en écoutant. « Sur l'eau, ça porte loin. En ce moment, les cloches sonnent sur la terre entière. » Les yeux tournés vers les lointains obscurs, il imaginait des champs sans fin, de larges rivières aux eaux débordantes, puis de nouveau des champs et des églises solitaires qui brillaient. Et au-dessus de tout cela, faisant vibrer l'air tiède, le joyeux carillon. « Ah !» fit-il en poussant un profond soupir. Tout cet espace, cette liberté. Parmillonne rentra chez lui avant la fin de la messe. Son poste de garde était glacial et vide. Il posa sur la table le gâteau, les œufs, et voulut réveillonner. Mais cela ne passait pas. Après un instant d'hésitation, il se rhabilla et retourna au village. À Sabourovo, les rues étaient désertes et sombres. Mais les lumières qui brillaient à toutes les fenêtres mettaient dans le village une animation inhabituelle. Une porte claqua. Parmillonne n'eut pas le temps de traverser la rue et fut interpellé par un gros paysan. C'était Mitrophane, le domestique du prêtre. Les bras écartés, titubant, il se mit à chanter. « Adieu, ma belle, adieu, pour ta beauté !» « Je n'ai pas Dieu !» Parmillonne se taisait, et Mitrophane, un peu éméché, prit un ton sérieux. « Le Christ est ressuscité, Parmillonne Eremeïtch !»« En vérité, il est ressuscité, Mitrophane Pankratitch !» Les deux hommes ôtèrent leur chapka et s'embrassèrent trois fois. Puis Mitrophane planta sa chapka sur sa nuque, essuya ses grosses lèvres avec sa manche et remarqua d'un ton cordial. « Eh bien, dis donc, qu'est-ce que tu as la bouche poisseuse ? Moi, mon vieux, j'ai bu un coup. C'est le pope qui m'a régalé. Tiens, Mitrophane, qu'il a dit, bois donc un coup pour ta peine. Alors j'ai bu. Pourquoi pas ? Je vais encore boire un coup chez Tita. Et au petit matin, je passerai chez ma carca. » Mitrophane fronça les sourcils, calculant le nombre d'endroits où il aurait l'occasion de boire cette semaine. Le résultat fut apparemment satisfaisant. Il avait beau rabattre sa chapka, elle glissait d'elle-même sur sa nuque. Mitrophane prit congé et poursuivit son chemin. Quand Parmillonne approcha de la maison des Gnédics, Médor s'agita et se mit à aboyer. Mais dès qu'il eut reconnu un familier, il remua la queue et se coucha sur le dos en signe de soumission et d'excuse. Parmillonne le caressa un peu et poussa la barrière avec précaution. Il ne voulait pas être aperçu de la rue. À travers les vitres de la fenêtre, astiquées pour la fête, on voyait parfaitement une partie de l'isba. Juste en face de Parmion, Sanka était assise à table et mâchait quelque chose avec difficulté, les joues gonflées comme des tambours. Ses yeux se fermaient, mais ses mâchoires fonctionnaient inlassablement. Pélagie était assise à côté d'elle. Son profil maigre, aux lèvres un peu pincées, était tout pénétré de la solennité de la fête. Parmion ne voyait pas les autres. Quelqu'un dut dire quelque chose de très drôle, car Pélagie éclata de rire, Sanka s'étrangla, et sa mère lui donna quelques tapes dans le dos. Parmion resta planté là, le regard fixe. Il ne se rendait pas compte que le repas était terminé et que Pélagie avait commencé à débarrasser la table. Le bruit de la porte qui s'ouvrait le fit redescendre sur terre. Pris au dépourvu, il se réfugia derrière la grange et s'y tapit en retenant son souffle. Grisha sortit sur le perron, regarda le ciel clair où s'illuminaient des étoiles tardives, se gratta et bâilla longuement en chassant Médor, qui exprimait le désir de se faire caresser. Le chien, vexé, courut alors vers Parmion et se frotta contre lui. « Ici !» cria Grisha. Mais Médor ne revenait pas. « Qui est là ? » ?»« C'est toi, Mitya ?» Parmion, collé au mur, gardait le silence. Grisha approcha et aperçut une silhouette courbée. « Qui est là ? Que viens-tu faire ici ? Réponds !» Parmion se retourna. Grisha le reconnut, prit un air renfrogné et allait se détourner quand soudain, il fut pris d'un soupçon qui se mua aussitôt en certitude. Il était venu mettre le feu. Pourquoi tu te caches ici en pleine nuit, hein ? Parmion ne disait rien. Alors, c'est comme ça ? Il le prit par le collet et se mit à crier. Mitya ! Mitya ! Non, mon vieux, tu vas pas filer comme ça. Mais Parmion ne songeait nullement à filer. Cloué sur place, il regardait stupidement le visage blanc de colère de Grisha. Puis Mitya, qui, à la demande insistante de son frère, s'était mise à lui fouiller les poches, dont il sortit une ficelle et une boîte d'allumettes au phosphore. « Incendiaire !» hurla Grisha. « Le voilà, ton bienfaiteur. Regarde !» cria-t-il à sa mère qui observait la scène, terrorisée, et, tirant Parmion, il lui cogna la tête contre le mur. Sanka, les yeux exorbités, poussa un petit cri. « Mais qu'est-ce qui te prend ?» finit par dire Parmion. « Comme si je pouvais faire une chose pareille. Pour l'amour du ciel, calme-toi. « Tu vas voir, espèce de canaille !»«
Bon, je suis venue, ma foi oui, mais on se connaît quand même. Je vous ai servi de père. Tu devrais avoir honte, Grisha. »
Ces derniers mots ravivèrent la colère de Grisha, qui commençait à s'émousser. Tenant toujours Parmion par le collet, il le secoua et menaça de l'emmener sur le champ au bureau du district, réclamant sa chapka et son manteau. Mitya intervint mollement.
« Laisse-le partir, Grisha. Il n'a qu'à s'en aller. »«
Que je suis malheureuse. Pauvre de moi !»
se lamentait Pélagie. Et elle se réfugia dans l'isba en entraînant Sanka. Mais cette dernière ressortit. Elle avait sa petite idée sur ce qui se passait.
« Bon, ça va. Mais c'est la dernière fois !»
Grisha lâcha le col de la veste de Parmion.
« N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si je te revois encore une fois, je te casse la figure. Allez, ne reste pas là. Va-t'en, puisqu'on te le dit. »
Parmion ramassa sa chapka et voulut dire quelque chose, mais ses lèvres tremblantes ne lui obéissaient pas. Deux fois, sa bouche s'ouvrit, découvrant des dents noires et cariées. Mais un seul mot en sortit.
« Ah, adieu !»
Tout voûté, comme si la lourde main de Grisha pesait toujours sur sa nuque, il marchait dans les rues. Partout, les lumières étaient éteintes. Le village était plongé dans le silence. Seul un chien mécontent poussait des gémissements mélancoliques qui atteignaient les notes les plus aiguës, les plus pures, avant de redescendre en un glapissement sourd. Le soleil n'était pas prêt de se lever, mais les ténèbres de la nuit commençaient déjà à se dissiper, remplacées par une pénombre grisâtre. Soudain, Parmion entendit derrière lui le martèlement rapide et saccadé de pieds nus. Une voix d'enfant tout essoufflée criait en traînant sur les derniers mots.
« Tonton s'en est ! Tonton s'en est !»
Parmion se retourna. Sanka, sa jupe tournoyante autour de ses jambes, courait droit vers lui. Elle n'avait déjà plus la force de crier et se contentait d'ouvrir la bouche. Médor gambadait à côté d'elle. En arrivant enfin devant Parmion, Sanka, emporté par son élan, leva le bras et murmura dans un souffle.
« Tiens !»« Sanka, mais qu'est-ce que tu fais là ?»
Parmion se pencha sur elle, étonnée, sans voir Médor qui, couché sur le dos, essayait d'attirer son attention. Sanka ouvrit la bouche, prit une profonde inspiration, de quoi prononcer tout un discours, et expira trois mots.
« C'est pour toi. »« Où cours-tu comme ça, sauterelle ?»
fit Parmion de plus en plus étonnée.
« Tonton s'en est, du gâteau pour toi !»
finit-elle par dire en prenant la sage précaution de ne pas s'attarder sur la virgule. Sa petite main tenait à grand-peine un gros morceau de gâteau passablement couvert de salive. Sanka, qui avait assisté à l'explication entre Grisha et Parmion, avait bien compris que le tonton s'en est n'était pas venu pour mettre le feu, mais pour réveillonner, parce qu'il habitait tout seul et n'avait rien à manger. Avant, maman lui donnait à manger, mais maintenant...
« Mange !»
et elle lui tendit le gâteau. Comme toutes les personnes de son âge, elle aimait voir ses idées mises à exécution sur le champ.
« Pourquoi tu ne manges pas ?»
Parmion, serrant les épaules maigrelettes de ses deux mains, ne pouvait détacher les yeux de ses joues rebondies et de ce nez en trompette qui, fidèle à ses habitudes, était toujours aussi sale. « Quel type bizarre, il n'a pas faim !» se disait Médor incrédule, en lorgnant le gâteau, la patte gauche agitée d'un léger tremblement. « Moi, je le mangerai volontiers, ce gâteau. »«
Allez, mange !» dit Sanka.
Au lieu de répondre, Parmion la prit dans ses bras et serra sa tête ébouriffée contre sa joue rugueuse couverte de cicatrices. Sanka se sentait à l'abri, bien au chaud, jusqu'au moment où quelque chose d'humide coula sur sa joue. Tournant la tête, elle vit que le tonton s'en est, ce tonton si grand et si fort, pleurait.
« Qu'est-ce que tu as ? Ne pleure pas !» murmura Sanka.
Ne recevant pas de réponse, elle reprit d'un ton plus sévère.
« Ne pleure pas, sinon je hurle !»
Parmion savait bien ce que cela voulait dire. Elle allait réveiller tout le village. Et il murmura, déposant un baiser sur ses grands yeux humides. « Ce n'est rien, ma Sanka. Ce n'est rien, mon bébé. Ça va passer.
Tu m'as pas oublié, toi. Tu as pensé à moi. »
Et de nouveau, les larmes coulèrent des yeux de Parmion. « On m'a fait de la peine, Sanka.
Allons, mon petit oiseau. »
Couvrant un de ses yeux avec la main qui tenait le gâteau, Sanka fit une grimace et mugit
« Ouh, Grisha est un vilain !»«
Allons, allons !» suppliait Parmion.
« C'est une brute !»
poursuivait la petite fille, impossible à calmer.
« Sanka !»
appela une voix chez les Gnédiques.
Je n'irai pas !»
beugla Sanka en baissant un peu la voix. En entendant la voix de Pélagie, Parmione s'empressa de poser Sanka par terre et murmura, en faisant sur elle le signe de croix, « Rentre, ma petite fille chérie, rentre, sinon maman va te gronder. »
« Tant pis, j'ai pas peur. »
« Allez, rentre, chérie, rentre. » Tête baissée, comme un bélier prêt à charger, Sanka s'éloigna d'un pas hésitant. Puis, s'avisant que sa mission n'avait pas été complètement menée à bien, rebroussa chemin, donna le gâteau et, vive comme l'éclair, fonça chez elle. Médor, après un regard d'adieu au gâteau, lui emboîta le pas à regret en trottinant. Un instant plus tard, on entendait dans la cour de la ferme la voix irritée de Pélagie. Il faisait presque jour lorsque Parmione arriva sur la berge et s'assit sur le talus couvert d'une herbe jaunie datant de l'année précédente, parmi laquelle pointaient ici et là des brins verts tout neufs. En bas, la rivière clapotait. L'eau avait monté pendant la nuit et la rivière semblait s'être rapprochée. Une épaisse glace blanche flottait à la surface. Elle glissait sans bruit, comme sur de l'huile. On aurait dit que la rivière tout entière avançait. Le ciel, de gris, devint blanc, puis bleu. Et Parmione était toujours là. Il avait le cœur gros.